nos Bibles ensemble dans le livre des Juges. Au chapitre 6, et nous lirons les premiers versets. Alors tranquillement, nous avancerons au cours de mes interventions du mardi soir dans cette étude, progressivement donc dans cette étude de ce vaillant héros qui s'appelle Gédéon. Juges 6, verset 1er, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et Israël fut très malheureux à cause de Madian, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. » Voilà, donc il y a quelques mois, nous étions arrêtés longuement, vous vous en rappelez peut-être, sur un autre juge, il s'appelait Samson. Et il ne s'agit pas ce soir de revenir en détail sur Samson, mais évidemment, quand on parle de Samson, quand on parle de ce ministère de juge, on peut dire en quelque sorte que Satan avait le profil de l'emploi, sa force, son courage, son audace, son intelligence. Voilà un homme qui avait une destinée conduite par Dieu, même avant sa naissance, puisque l'ange de l'Éternel avait été envoyé vers Manoac et la maman de Samson. Et cet appel de Dieu, cette destinée, était en quelque sorte concrétisée avec pour emblème cette chevelure impressionnante qui ornait la tête de Samson. Maintenant, nous allons nous tourner vers un autre juge. Et celui que nous allons étudier, c'est Gédéon. Et celui-là, il nous paraît fort loin d'avoir le profil. Car à vrai dire, Gédéon est avant tout un agriculteur. Il n'a pas d'ambition politique, il ne rêve pas de devenir un chef militaire. Il semble d'ailleurs qu'il n'en avait pas les dispositions morales et caractérielles. Il semble plutôt très prudent, voire très craintif. Et on ne voit pas en lui des qualités de leadership évidentes. Et pourtant, c'est lui que Dieu va choisir à un moment donné. Gédéon apparaît donc comme l'anti-Samson. Samson était né d'une famille pauvre. Gédéon va dire que sa famille n'est pas très influente, mais il ne faut pas trop le croire dans ce qu'il dit. Parce que lorsque quelques jours plus tard, il va y avoir quelques difficultés, son père aura suffisamment d'influence pour calmer tout le monde. Et on sait aussi que Gédéon aura à sa disponibilité plus d'une dizaine de serviteurs. Donc, c'était une famille quand même assez reconnue. Maintenant, si on se tourne vers Gédéon, je le disais, chez lui, pas d'élection particulière, pas de consécration, de mise à part de la part du Seigneur, pas de destinée toute tracée, pas de force spectaculaire chez cet homme. Et quand Samson est un homme qui agit publiquement, ouvertement, Gédéon est un homme qui se cache. Ce qui est rassurant avec Gédéon, c'est qu'il nous ressemble. Samson nous paraissait inatteignable. Gédéon nous ressemble davantage. Alors c'est sûr que si on devait faire un choix, voter entre Gédéon ou Samson, par rapport à plein de critères qui sont là, on choisirait davantage Gédéon comme héros, comme porteur de l'image du serviteur de Dieu. Toutefois, on verra que Gédéon n'est pas à l'abri de critiques. Et nous nous posons des questions, notamment dans le passage des toisons. Plusieurs fois, il va revenir vers le Seigneur pour se faire confirmer l'appel de Dieu. Vers la fin de sa vie, il va même tomber dans quelques pièges idolâtres. Peut-être connaissez-vous la fin de son histoire lorsqu'il va vouloir récupérer des anneaux d'or et il va s'en faire un téraphime, une idole. Et puis, le commentaire est là tel qu'il est, mais apparemment, Gédéon a eu de nombreuses et nombreuses femmes et des concubines. Donc, on le voit, c'est un homme aussi avec toute une histoire, avec une complexité. Mais dans tous les cas, tout comme Samson, Gédéon fait partie des héros de la foi, puisque lui aussi est mentionné dans Hébreux, chapitre 11. L'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament est unique. Certes, Gédéon a accompli de grands exploits, mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Gédéon, c'est avant tout le récit d'une transformation. Comment Dieu fit d'un type tout à fait ordinaire un héros? Parce que c'était un gars ordinaire, Gédéon, et il l'a transformé en héros. Et bien sûr, cette histoire est encore celle que Dieu désire écrire avec un homme, avec une femme, avec chacun d'entre nous. Car n'est-il pas celui qui se glorifie à travers les choses faibles et folles de ce monde? Et n'est-il pas celui dont la puissance s'accomplit dans la faiblesse? Et cette histoire vient à notre aide, elle vient à mon aide, lorsque nous nous retrouvons face à des défis a priori insurmontables, des défis qui nous poussent à faire comme Gédéon, à battre le blé dans le pressoir à vin. Et le Seigneur vient vers nous en nous disant « Vaillant héros ». Et on se dit « Seigneur, tu es sûr que c'est moi que tu appelles comme ça ?» Et cette histoire de Gédéon est là pour nous encourager. Alors, dans ce livre des juges, le livre de Gédéon tient une place très importante parce que d'abord c'est le plus long récit et le plus détaillé. Deuxièmement, parce que l'ange de l'Éternel vient lui-même à la rencontre de Gédéon. Au début, il est question d'un ange, de l'ange de l'Éternel, et puis ensuite de l'Éternel lui-même. Donc, si pour l'histoire de Samson, l'ange de l'Éternel était venu visiter la maman et le papa, là, dans l'histoire de Gédéon, il vient le visiter lui personnellement. Le Seigneur vient visiter Gédéon. Et la rencontre, on le verra, entre le Seigneur et Gédéon, nous rappelle celle du Seigneur avec Abraham, près des chaînes de Mamré, ou celle avec Moïse, dans au-delà du désert, dans le passage du buisson ardent. Donc, cette histoire de Gédéon, nous allons y consacrer quelques temps, nous allons rentrer au fur et à mesure, et ce soir, nous allons nous contenter de poser un peu le cadre à travers cette introduction de ces 11-10 premiers versets, pour voir un peu la situation, et voir aussi en quoi la situation que traverse Israël va nous inspirer et peut nous amener à réfléchir quant à notre propre époque. Simplement pour dire que, eh bien, à l'époque où commence cette histoire, nous sommes donc 40 ans, une à deux générations, après celle de Déborah et Barak. Il y a donc 40 ans, des exploits extraordinaires s'étaient accomplis à travers, eh bien, la prophétesse, à travers la juge et à travers Barak qui l'avait accompagnée. Heureusement, les générations se sont écoulées et comme il arrive trop souvent, la nouvelle génération qui vient a oublié le souvenir des temps passés et s'est détournée une nouvelle fois de Dieu. Alors le Seigneur les a livrés à l'oppression de Madian. Dieu a permis que Madian vienne exercer une oppression et c'est là l'expression d'un jugement de Dieu. Non pas un jugement définitif, mais un jugement en vue de provoquer parmi le peuple un désir de retour. Un jugement qui nous rappelle ce que la Bible dit au sujet des châtiments que Dieu permet parfois dans la vie de ses enfants parce qu'il les aime et parce qu'il veut les ramener à lui. Mais au début de cette histoire, nous voyons que le peuple d'Israël est un peuple qui vit dans la crainte de l'ennemi. C'est un peuple qui est asservi moralement et c'est un peuple aussi qui vit dans une très grande précarité, une très grande pauvreté matérielle. Tout ce qu'il a comme richesse est systématiquement détruit ou volé, pillé chaque année depuis 7 ans par ces invasions des Madianites et des tribus qui les accompagnent. Alors, Venons-en donc maintenant à l'origine de cette situation de crise dans laquelle le peuple d'Israël est maintenant plongé depuis 7 ans. Et nous voyons au tout début, eh bien, les choses sont dites clairement, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Il ne nous est pas dit ici exactement quoi, mais on ne peut que l'imaginer. Israël est une nouvelle fois retombé dans son travers, l'idolâtrie. D'ailleurs, le prophète que le Seigneur envoie leur rappelle ceci, « Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. » Et donc, Israël s'était de nouveau tourné vers le culte des idoles, certainement des Baals. Pourtant, la situation d'Israël concernant les bénédictions de Dieu était à tous égards une situation bénie. Dieu les avait conduits dans un pays riche, il leur dit, ils avaient arraché de l'Égypte, il avait renversé, chassé les ennemis qui étaient devant lui, il lui avait donné un beau pays. Israël habitait des villes et des maisons qu'il n'avait pas construites. Il était débarrassé de ses ennemis et que depuis 40 ans, Israël connaissait une période de paix et de prospérité puisque Juges chapitre 5, verset 31, finit comme ceci, « Le pays fut en repos pendant 40 ans. » Seulement, ce peuple, pendant ces 40 ans, s'est laissé aller. Il s'est laissé aller spirituellement et moralement dans un certain confort. Et ils ont oublié qu'avant ces 40 années de paix, ils avaient été opprimés pendant 20 ans. Vous trouverez ça dans Juges chapitre 4e, les premiers versets du chapitre 4, pendant 20 ans par un roi qui s'appelait Jabin et qui avait une armée de 900 chars de fer. Une oppression violente, terrible, jusqu'à ce que Dieu suscite Déborah et Barak pour délivrer le peuple. Et donc au bout de ces 40 ans, Israël avait oublié ce qui s'était passé et dans son confort avait glissé vers l'idolâtrie. Ce que je crois, c'est que l'idolâtrie n'est pas revenue du jour au lendemain. Ils n'ont pas dit « on va arrêter de servir Dieu, on va se construire des idoles et on va les adorer ». Il y a eu un glissement, quelque chose de progressif qui se fait dans le temps, qui se fait dans la succession des générations. On rentre dans un certain confort matériel, religieux, et on en oublie ce qui fait la force. Quelque part, Israël a glissé d'une relation avec le Dieu des bénédictions vers les bénédictions de Dieu. Et des bénédictions de Dieu, il a ensuite chuté vers les bénédictions toutes seules. Recherchons non plus simplement les bénédictions de Dieu, et encore moins le Dieu des bénédictions, mais simplement le confort. Et le confort étant maintenant sa recherche première, eh bien ils en sont arrivés presque à l'élever en idole. Et les dieux qu'ils servaient à cette époque-là étaient les Baals, les dieux de la fertilité, de la prospérité. Les dieux de la consommation, les dieux du matérialisme. Et cette idée de glissement, elle est très forte aussi dans la succession des générations dans l'Église. Car lorsqu'une famille vient vers le Seigneur, nous croyons que la bénédiction de Dieu repose sur elle. Mais le temps passant, on peut perdre de vue ce qu'était la vie avant le repos que Dieu donne. Et donc, les générations passant, le temps passant, on peut glisser d'une relation avec Dieu vers une relation avec ce que Dieu donne. Et l'Église devient plus « Seigneur, en quoi tu me bénis ?» plutôt qu'une relation d'amour par-dessus tout avec le Seigneur. Et le temps passant, eh bien, comme ça, on glisse. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir, malheureusement, au bout de 40 ans peut-être, 1, 2, 3 générations, eh bien, des descendants de chrétiens authentiques qui ne savent plus pourquoi ils croient et qui finalement vont chercher simplement à vivre une vie matérielle, une vie prospère, oubliant ce qui avait fait la force de leur maison. Face à ce glissement, la réaction de Dieu a fini par se faire sentir et le Seigneur a livré Israël à Madian. C'est ce que nous lisons ici, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Le verbe livrer est vraiment un verbe très très important des Écritures. Le verbe livrer marque la souveraineté de Dieu en toute chose. Tant dans le bien qui se produit dans nos vies, Dieu est capable de nous livrer nos ennemis. Dieu a livré Jéricho à Israël. Mais d'une autre manière, aussi dans le mal dans lequel le croyant ou l'homme peut s'enfoncer, Dieu peut livrer des hommes à leur péché. Romains chapitre 1er. Dieu les livre, Dieu les abandonne. Vous voulez y aller, eh bien allez-y. Et c'est là une expression bien sûr de jugement, mais ça nous amène à comprendre que rien de ce qui arrive à Israël ne se produit sans la volonté de Dieu. Madian aurait été sans force si Israël était demeuré en communion avec le Seigneur. Madian n'a d'emprise sur Israël que parce que Dieu le permet, parce que Dieu a livré Israël entre les mains de Madian. Mes frères et sœurs, je crois que ce qui nous arrive à nous, enfants de Dieu, est toujours gardé sous la main de Dieu, tant dans le bien que dans le mal qui peut arriver. Le Seigneur veut nous bénir avant toute chose et il est prêt à nous livrer, à nous donner. Mais il est clair que si nous nous détournons des voies du Seigneur, nous verrons, je crois que Dieu est capable de nous arrêter, nous l'avons déjà dit, avant d'aller trop loin. Mais si à un moment nous voulons y aller, bien Dieu dira « Ok, vas-y ». Et il nous abandonne et il nous livre à notre propre volonté. Pour Israël, cela fait 7 ans maintenant qu'il est opprimé par Madian. Alors certes, ce n'est pas la plus longue des périodes d'oppression qu'il y a dans le livre des Juges, puisque à un moment, au tout début, Eglon, roi de Moab, avait opprimé Israël pendant 18 ans. Jabin, que j'ai mentionné, roi de Hatsor, a opprimé Israël pendant 20 ans, et plus tard, les Philistins opprimeront Israël pendant 40 ans. Mais il semble qu'avec les Madianites, l'oppression fut particulièrement intense, au point qu'à un moment, il est écrit que Israël fut très malheureux. La violence de leurs attaques avait vraiment, vraiment blessé, meurtri le peuple d'Israël. Les Madianites ne sont pas une force d'occupation, mais de dévastation. Et l'auteur emploie une image très parlante, puisqu'il les compare à des sauterelles, à un nuage de sauterelles, pour évoquer à la fois le grand nombre de ces nomades, qui plus est, comme le texte le dit, ce sont des nomades qui sont juchés sur des chameaux. Donc ça donne une force encore plus grande. Et le caractère destructeur. Les nuages de criquets de sauterelles passent, ils ne s'arrêtent pas, mais derrière eux, il n'y a plus rien. Et donc, depuis 7 ans, les Madianites et leurs alliés reviennent à chaque saison des récoltes pour opérer des razzias. Ils ne cherchent pas à tuer les hommes, mais ils volent et détruisent. Ils ravagent économiquement Israël, tant au niveau des plantations que de l'élevage. Ils ne laissent rien derrière eux. Et leur pénétration dans le pays d'Israël est tellement avancée qu'ils atteignent Gaza et la région côtière de la Méditerranée. Frères et sœurs, il est très intéressant de s'arrêter sur les différentes formes d'oppression auxquelles Dieu livra Israël. Et ça mériterait tout un enseignement parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Je parlais de Jabin et de ses 900 chars de fer. Une oppression violente face à un peuple désarmé. C'est Déborah qui dit que le peuple était sans armes. C'est une forme d'oppression. Quand nous parlions de Samson et des Philistins, nous avions vu que les Philistins n'occupaient pas le pays d'Israël, mais ils l'influençaient moralement. C'est le compromis. Avec les Madianites, c'est la dévastation. Des coups durs après coups durs. Chaque fois qu'on espère quelque chose, qu'on construit quelque chose, boum, l'ennemi vient, il détruit, il vole, il ravage. Et ces choses-là sont écrites aussi pour nous interpeller sur des événements que nous pouvons vivre ou que nous voyons se produire autour de nous. Quelles étaient les conséquences de cette domination des Madianites sur Israël ? D'un côté, nous avons le peuple d'Israël, retranché dans des abris de fortune, caché, un peuple sans réaction. Un peuple apeuré. De notre côté, nous avons les Madianites, qui déploient leur force à la vue de tous, et ils ne rencontrent aucune résistance. Et ils font ce qu'ils veulent. au sein même d'Israël, au cœur même d'Israël, rien ne peut les arrêter. Israël avait donc abandonné le Seigneur pour servir Baal, et les promesses de prospérité et de fertilité, au bout du compte, ils ne connaissent que la famine, la destruction, ils ont tout perdu. Parce qu'ils s'étaient détournés du Seigneur, parce qu'ils avaient glissé dans leur relation avec Dieu. Toute l'histoire des juges vient souvent sur ça, de la relation avec Dieu, relation qui ensuite va se perdre, jusqu'à ce qu'il y ait un temps de repentance et de retour vers Dieu. On le voit aussi, par exemple, avec l'histoire des beaux-parents de Ruth. Naomi et son mari qui vont partir, quittant le Bethléem, la maison du pain, parce que soi-disant, ils n'avaient plus rien à manger, qui vont tout perdre dans le pays de Moab. Et tout ça est là pour nous amener aussi à réfléchir. Les années passent. La bénédiction de Dieu est là. Et combien nous devons nous souvenir que tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce du Seigneur. Et que c'est lui qui compte avant tout. Mais si nous oublions cela, nous risquons de glisser. Nous risquons de perdre l'essentiel. Et nous risquons de nous exposer à être une proie dans ce monde. Existe-t-il une solution à cette crise? On le verra la prochaine fois, il y a la manière de faire de Gédéon. Gédéon, c'est celui qui essaye de sauver ce qu'il peut sauver. Il est dans son pressoir à vin et il est en train de battre le blé, se cachant de tous. En même temps, il y a une très grande frustration dans le cœur de Gédéon. Il se souvient de ce qui se passait autrefois, il constate maintenant ce qui se passe. Quelles que soient ses actions, de toute façon, elles ne pourront pas renverser le cours des choses. Ça, c'est la voie de l'homme. Et puis, il y a la voie de Dieu, le retour vers le Seigneur. On le voit au verset 7, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, parce qu'ils étaient très malheureux. » Ça me rappelle un peu ce que nous disions, et c'est là que je fais le lien avec ces enseignements ces temps-ci dans Romains 7, que c'est triste, mais il le faut malgré tout, difficile d'y échapper, il faut aller jusqu'au bout de nous-mêmes, et c'est quand nous disons « malheureux que je suis ». Que Dieu va intervenir. Non pas que Dieu attend que nous poussions ce cri, mais parce que ce cri exprime quelque chose qui vient de nous. Parce que quand nous en arrivons à être dans ce malheur-là, alors, disons, ok, stop, maintenant j'arrête mes bêtises, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, vous comprenez? Ce cri témoigne d'un changement de disposition dans nos cœurs. On peut se dire quand même, pour Israël, il a fallu 7 ans. 7 ans avant qu'ils arrivent à crier « Mais Seigneur, nous sommes malheureux !» Ils étaient vraiment endurcis. Année après année, les mêmes ravages, les mêmes pillages, les mêmes destructions. Et malgré tout, il faudra 7 ans. Remarquez, je crois qu'à Naomi, il lui a fallu plus de 10 ans avant de revenir. 10 ans dans le pays de Moab, après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle finira par rentrer. C'est vrai que parfois le chemin du retour vers Dieu est un chemin qui peut prendre beaucoup de temps. Et pendant ce temps, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs parce qu'elle ne s'arrête pas. Alors voilà donc que Israël crie vers le Seigneur, espérant que Dieu lui envoie un nouveau juge. Après Othniel, après Ehud, après Barak, un nouveau libérateur. Mais voilà que le Seigneur ne va pas procéder ainsi. Dieu ne lui envoie pas un libérateur, il lui envoie un prophète, un prédicateur. Et ça, c'est la voix du Seigneur. Il lui envoie un prédicateur avec un message particulier pour lui rappeler, premièrement, ce que Dieu avait fait pour Israël. Comment Dieu avait libéré Israël de l'Égypte, pour lui rappeler ensuite ses exigences, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, et pour lui rappeler ensuite sa désobéissance. Voilà ce que Dieu a fait. Israël espérait un libérateur, Dieu lui envoie un prophète. Qu'est-ce que le Seigneur attendait ? Bien que quelque chose se passe dans le cœur du peuple. Le peuple désirait une délivrance immédiate. Viens nous secourir. Ce que Dieu veut les amener, c'est à prendre conscience des causes de leur situation. Pourquoi ils sont dans cette situation ? Donc non pas simplement une délivrance, mais une prise de conscience afin de ne pas retomber dans les mêmes travers. De même, dans de nombreux cas, nous avons besoin de comprendre, nous devons comprendre pourquoi nous sommes dans telle situation avant de recevoir du secours. Nous voulons échapper aux circonstances, Dieu veut que nous interprétions les circonstances. Autrement dit, il veut nous amener à comprendre quel est le véritable problème. Je prends un exemple tout simple. L'un aura des problèmes récurrents avec l'argent. Et il dira, après le 15 du mois, il me manque de l'argent, je n'ai pas suffisamment d'argent. Quand Dieu veut peut-être lui faire prendre conscience que c'est avant tout un problème de discipline, de bonne gestion, peut-être aussi et notamment dans la part qui revient à Dieu. Le Seigneur veut l'enseigner à travers ces choses. Pour Israël, le vrai problème, ce n'était pas l'oppression des Madianites. Le vrai problème d'Israël, c'était l'obéissance qu'il devait à Dieu. Il en va de même pour nos vies. Si nous continuons à tomber dans les mêmes péchés, dans le même piège, alors Dieu va faire en sorte que nous puissions voir quelle est la source de notre problème. Si nous tombons une fois, si nous sommes dans une situation difficile une première fois, nous pourrons dire « Seigneur, pardonne-moi, secours-moi » et Dieu est capable de nous délivrer. C'est ce qu'il a fait avec les premiers juges. Israël s'était éloigné de Dieu, était tombé dans l'idolâtrie, les ennemis étaient venus, ils avaient crié à Dieu, « Dieu envoyait un libérateur !» Mais comme Israël, génération après génération, malgré toutes les bienfaisances du Seigneur, retombait dans les mêmes choses, à un moment, Dieu a dit « Stop, je ne vous envoie pas un libérateur comme ça. D'abord, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre pour que vous compreniez pourquoi vous êtes dans cette situation. » Et pour nous, c'est pareil. Dieu veut que nous prenions le temps de réfléchir au pourquoi de nos défaillances dans un domaine particulier. Car mes frères et sœurs, il est quand même triste de voir des chrétiens qui, année après année, des fois c'est des dizaines d'années, sont toujours dans les mêmes problèmes. Pleurent toujours devant le Seigneur. Exauce-moi, délivre-moi, agis, fais quelque chose. Mais le Seigneur n'agit plus. Il l'a fait peut-être au début. Et maintenant, il leur dit, écoute, réfléchis un peu sur ta situation. Parce qu'il est évident qu'il y a des choses à remettre en question dans leur façon de vivre. Que ce soit matériellement, que ce soit dans la santé, que ce soit même dans la vie de couple, que ce soit dans beaucoup de choses, professionnellement parlant. Par les circonstances que nous traversons, Dieu peut vouloir nous apprendre certaines choses. Je prends cet exemple que l'apôtre Pierre nous dit. Vous savez, au sujet des maris, en leur disant, ben écoutez, si Dieu ne vous exauce pas, vous ferez peut-être besoin de réfléchir quant à vos relations avec votre épouse. C'est un exemple. Et ça, on peut le multiplier. Et Dieu veut nous amener à progresser. Et c'est pareil dans le travail. Si dans le travail, on a toujours des problèmes, que ce soit parce qu'on perd un boulot, parce qu'on a... À un moment, Dieu va nous dire, mais écoute, arrête-toi et réfléchis. Regarde ta façon de travailler, regarde ta façon de tes rapports avec tes supérieurs ou avec des équipes qui te sont confiées. Réfléchis à toutes ces choses. Et dans cette situation, Dieu voulait qu'Israël interprète et comprenne. Et en faisant ces choses, il trouverait le chemin de la délivrance. Et c'est peut-être aussi ce que Dieu veut faire pour nous. Pierre, tout à l'heure, parlait d'Actes 12, au sujet de l'Église qui priait incessamment pour Pierre. Et ce que j'aime bien dans ce passage, je l'ai peut-être déjà mentionné plusieurs fois, c'est pour l'apôtre Pierre, il y a au moins deux fois le verbe réfléchir. Une autre, c'est quand il a, la première fois quand il a renié le Seigneur, ici, il y a un moment, il est écrit Pierre a réfléchi. Et puis là, quand il sort de prison, il réfléchit. Dieu l'a délivré, mais il réfléchit. Et puis après, il nous dit qu'il va partir dans un autre lieu. Et des fois, il est bon de s'arrêter Je vais vous dire comme ça, d'arrêter de prier, de supplier, de gémir. C'est le prophète Malachi qui dit, mais je ne peux pas vous exaucer, vous avez couvert mon autel de larmes. Arrêtez donc de pleurer, de pleurnicher, c'est un peu ce que veut dire le Seigneur, et réfléchissez, faites un point sur votre vie. Et c'est ce qu'Israël devait faire. Israël a entendu le message du Seigneur, et moi je vais vous dire, Dieu a été satisfait. Alors, certains interprètes vont dire, les cris de détresse ont été une démonstration d'une contrition, d'un acte de repentance du peuple. Ou alors, peut-être que la prédication du prophète a eu un impact dans le peuple que nous ignorons, mais aussi nous avons un Dieu de grâce. Mais après avoir envoyé son prophète, Dieu va leur envoyer ensuite son Messie, son libérateur. Il va le trouver là au fond de son pressoir à vin, il s'appelle Gédéon. Et c'est encore un fait de la souveraineté de Dieu. Dieu avait suscité les Madianites et leur avait livré Israël. Et Dieu va choisir et va susciter lui-même un libérateur, Gédéon. Et le premier acte que Gédéon fera sera de renverser l'autel de Baal ou d'Astarté, je ne sais plus, qui était dans le village de son père. La libération spirituelle précède la délivrance de nos soucis. Nous le comprenons bien. Le Seigneur est prêt à agir une fois, deux fois, trois fois pour nous sortir de nos problèmes. Mais il arrive un moment où Dieu nous dit, allez, maintenant on s'arrête et tu vas m'entendre. Parce qu'à quoi ça servirait que je t'envoie encore une fois une bénédiction si de toute façon tu n'y prends pas garde? Alors des fois, le Seigneur permet que les épreuves durent 7 ans et qu'elles soient difficiles pour que vraiment, se produise quelque chose dans nos cœurs afin que nous puissions non plus glisser, mais rester attachés fermement à Dieu.